Ce soir, nous recevons le professeur Michel Didier. Le professeur Michel Didier est diplômé de l'École Polytechnique. Il est diplômé de l'École Nationale de Statistique et de l'Administration Économique. Il est actuellement professeur titulaire du CNAM à la chaire d'économie et statistique industrielle. Donc il est chez lui, c'est plutôt lui qui me reçoit. Il est directeur scientifique du Centre de recherche sur l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Et il est membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Ses spécialités sont la macroéconomie et économie du secteur productif. Il a été primé par la Fondation de France pour son ouvrage « Économie, les règles du jeu » chez Economica, Paris 1994. Il est l'auteur d'autres publications, « Scénario pour l'emploi, édition Economica, Paris 1995 ». Coût du travail et chômage, une relation complexe, revue futurible, avril 1995. Et innovation et croissance, rapport du Conseil d'analyse économique à la documentation française, 1999. Professeur Michel Didier, c'est à vous.
Merci. Lorsque Yves Michaud et l'équipe de l'Université de tous les savoirs m'a proposé, il y a peut-être un an à peu près, peut-être un peu plus même, d'intervenir sur le sujet « Nouveau cycle et nouvelle croissance économique », je dois dire que j'ai accepté tout de suite parce que j'ai le sentiment que nous avons la chance de vivre une période assez exceptionnelle. Et c'est cela que je vais m'employer à vous développer. La croissance économique revient, on l'avait un peu oublié depuis pas mal d'années, elle est là, elle est même vigoureuse. Une vague d'innovation se développe dans les technologies de l'information et de la communication, et cette vague modifie en profondeur la production et les échanges, elle suscite un foisonnement de services nouveaux, elle tisse une sorte de toile immatérielle qui dépasse toutes les frontières, le fameux web. Et la question est la suivante, cette vague formera-t-elle la base d'une nouvelle économie dans laquelle, à l'avenir, le cycle économique pourrait s'estomper et la croissance se renforcer? C'est la question que nous allons explorer ensemble ce soir et discuter et débattre. Mais auparavant, je vous propose, pour illustrer notre réflexion, quelques images économiques du XXe siècle que nous avons préparées pour vous.
En 1901, les frères Lumière s'implantent aux États-Unis pour concurrencer Eastman Kodak. Le succès est mitigé. CNN et Time Warner s'allient pour réunir les contenants et les contenus, les tuyaux et les images. Quatre ans plus tard, AOL, détenteur des tuyaux Internet, les avale tous les deux. Première liaison radio entre la Cornouaille et Terre-Neuve, établie le 12 décembre 1901 par Guglielmo Marconi. Les liaisons passent maintenant par des satellites de télécommunications installés dans l'espace. Gottlieb Daimler et Carl Benz présentent leur nouveau modèle. Ils l'appellent Mercedes, en hommage à mademoiselle Mercedes Daimler. Daimler-Benz fusionne avec Chrysler. Renault achète Nissan, puis Samsung. Le prix astronomique du terrain à Manhattan fait grimper les immeubles vers le ciel. Le premier gratte-ciel, le Flatiron Building, approche les 100 mètres. Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur rivalisent dans la construction de tours toujours plus hautes. La start-up Michelin triple son chiffre d'affaires. Bibendum licencie. Le fabricant de logiciels Cisco vaut presque 100 fois Michelin. Le Bon Marché, toujours dirigé par un ex-collaborateur de M. Boussicot, fête ses 50 ans. Il offre des actions gratuites à tous les employés. Les grandes entreprises françaises proposent des stock options à leurs salariés. Armand Peugeot inonde le marché français en fabriquant 4800 véhicules par an. Peugeot Citroën annonce des ventes records. La Banque de l'Union parisienne investit dans l'industrie. Le Crédit Lyonnais et la Société Générale, échaudés par les crises du 19e siècle, préfèrent s'en tenir aux placements en fonds publics. La Banque Paribas et toutes ses participations sont rachetées par la BNP. Le Crédit Lyonnais digère ses aventures industrielles des années 80. Une grève des électriciens plonge Paris dans le noir. Clémenceau évoque des postiers et des instituteurs en grève. Il déclare « On n'est pas obligé d'être fonctionnaire ». La réforme du ministère des Finances bute sur l'opposition syndicale. Première loi générale sur les retraites. Le principe retenu, contesté par la CGT, est la capitalisation. Les cotisations sont placées en fonds publics pour servir les pensions. Le débat sur les retraites bat son plein. Scandale de la margarine mort en Allemagne. Première loi sur les produits additifs. Listeria, vache folle, les OGM sont à l'affiche. La malbouffe est dénoncée jusqu'à Seattle. 1900, première crise boursière et récession. Des start-up de l'électricité font faillite. Les prix des matériels électriques baissent. Les prix industriels baissent toujours. Quant à la croissance, la Cour suprême américaine condamne la Standard Oil et l'American Tobacco au démembrement. L'administration américaine exige le démantèlement de Microsoft. Paris fait la fête, c'est la belle époque. 1er janvier 2000, Paris fait encore la fête, mais c'est le millénium. Alors l'économie ne serait-elle qu'un éternel recommencement ? Eh bien, par certains côtés, oui, car les besoins et les aspirations des hommes ne changent pas. Mais par d'autres, il faut peut-être que tout change pour que rien ne change. On travaille en famille dans des champs. On travaille à la chaîne dans des usines. On travaille sur son micro-ordinateur, surtout dans des bureaux. Presque rien de ce que nous achetons aujourd'hui n'existait il y a un siècle. Alors sommes-nous vraiment au seuil d'une nouvelle économie ?
Sommes-nous vraiment au seuil d'une nouvelle économie ? Pour tenter de répondre à la question que notre homme très satisfait de lui-même, que vous avez aperçu à la fin, annoncé, commençons peut-être par donner un coup d'œil sur le passé. Je partirai, si vous le voulez bien, d'un chiffre, plus exactement d'un graphique, qui est l'indice de la production industrielle française depuis 1920, qui va apparaître, je pense, à l'écran. Voici la production industrielle française depuis 1920. Qu'observe-t-on sur ce graphique ? Eh bien, la première observation concerne la tendance générale. Le volume de la production industrielle française, et c'est vrai partout, a clairement augmenté au cours des deux derniers siècles. C'est ce que les économistes appellent le phénomène de la croissance économique. Deuxième observation, le mouvement n'est pas régulier. Il y a de bonnes périodes, il y en a de moins bonnes et il y en a même de franchement mauvaises. Voici par exemple les différents retournements des cycles économiques ou des mouvements de l'économie depuis donc 1820. Voyons une certaine régularité dans la première période, c'est-à-dire avant. Les deux trous qui sont ici sont les deux guerres, donc on ne va pas les compter, c'est un peu particulier. Les choses sont plus régulières depuis la dernière guerre. Mais il y a tout de même deux récessions, de 1975 et de 1993. Dans ces mouvements alternativement positifs et négatifs, certains économistes ont cru déceler des cycles, c'est-à-dire une alternance à peu près régulière, on l'a vu sur le graphique, de périodes d'expansion et puis de périodes de récession ou en tout cas de ralentissement. Les choses se compliquent un peu si on élargit l'observation à un grand nombre de pays, car la croissance est loin d'apparaître comme une loi absolument générale. Et je vais vous donner quelques exemples de taux de croissance du produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire le revenu national moyen, de quelques pays depuis 40 ans. Voici d'abord la Corée du Sud, pays qui démarre à 2 000 $ par habitant en 1993, qui est à 14 000 $ avec une croissance absolument faramineuse. Vous voyez que sur la fin simplement, il y a un petit accident en haut à droite, qui est la fameuse crise financière asiatique de 1998, 97-98, mais au fond, c'est peu de choses dans l'histoire de la Corée du Sud. Voici la Chine, qui est en train, apparemment, de prendre le chemin de la Corée du Sud, mais avec, évidemment, un décalage important. Donc, il y a un potentiel de croissance devant nous encore très important. Voici le Mexique, qui ressemblait un peu à la Corée du Sud dans la première partie, mais qui, à partir de 1980, rentre dans une zone noire de croissance pratiquement stagnante. Et voici l'Ukraine, qui augmente, qui était au niveau de la Corée du Sud en 1970-75 et qui est maintenant pratiquement à 5-6 fois au-dessous de la Corée du Sud. Vous voyez que les taux de croissance des pays sont extrêmement différents et donc il n'y a pas de loi absolue. Et face à de telles différences, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il vraiment possibilité d'espérer détecter un changement de tendance, un nouveau cycle, une nouvelle croissance. Pour tenter de répondre à cette question, il est peut-être utile de se tourner vers des éléments de théorie économique. C'est peut-être le passage un peu plus pédagogique, mais il s'agit d'une université de tous les savoirs, donc je suis obligé aussi de faire un tout petit peu de pédagogie. Pour déchiffrer cette masse considérable de données statistiques qui nous arrivent, surtout dans la période récente, il faut avoir un schéma intellectuel à l'esprit, se référer à des théories économiques. Qu'est-ce que c'est les théories économiques ? C'est des idées structurées sur les logiques du réel. Les théories n'ont de sens que si elles sont cohérentes, mais elles n'ont de valeur et d'utilité que si elles rendent compte à peu près correctement des réalités observées. Pour l'économiste, l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation, est interprétée comme une succession d'équilibres temporaires dont on cherche à rendre compte, à expliquer la formation, en combinant deux approches, une théorie de l'équilibre et une théorie du mouvement de l'équilibre, c'est-à-dire du déplacement dans le temps de l'équilibre temporaire. Le modèle de base de l'équilibre est bien connu, même par les non-économistes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et en combinant la loi de l'offre et de la demande sur les principaux marchés, le marché des biens, le marché du travail, le marché des capitaux, eh bien, on rend compte de la situation d'équilibre général de l'économie. Et la théorie classique suggère qu'un tel équilibre existe pour un bon niveau des prix, pour un bon niveau des salaires et pour un bon niveau du taux d'intérêt. Elle reconnaît aussi que si l'un de ces prix n'est pas à son niveau, alors l'économie peut être en déséquilibre. Le modèle des fluctuations économiques, la théorie des fluctuations économiques, c'est-à-dire des mouvements, des cycles, montre que le jeu spontané des comportements conduit en général à une succession d'équilibres qui dessine des mouvements cycliques. Je ne rentre pas dans l'analyse, mais c'est ça l'idée de base de la théorie des fluctuations économiques. Enfin, la croissance longue, de longues périodes, sur des décennies, celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur la production industrielle, cherche à expliquer les relations de longues périodes entre les tendances. Le modèle de base de la croissance considère le taux de croissance de l'économie comme l'addition de deux termes. Un premier terme qui mesure la quantité des ressources de facteurs de production disponibles. Facteurs de production, c'est le nombre d'heures qui ont été travaillées dans l'année.
c'est la quantité du capital disponible, les machines, les usines, etc. C'est la quantité de ressources naturelles. Il est évident que si on travaille plus, ben, il y aura plus de production. S'il y a plus de capital, il y aura plus de production. Donc ceci est le premier terme, c'est un terme de quantité. Le second terme, essentiel pour la croissance, et peut-être le plus important pour notre débat, c'est le terme qui reflète les gains de productivité. Alors qu'est-ce que c'est les gains de productivité? L'idée est simple, c'est que si le produit national, la production nationale, augmente plus vite que les quantités de facteurs utilisés, alors c'est que la croissance résulte non seulement des quantités de facteurs, mais d'autres choses. Cela veut dire que les facteurs sont devenus plus productifs d'une année à l'autre, et ceci est la productivité. La productivité est, avec l'investissement, la clé de la croissance longue. Sur cette théorie très simplifiée, on peut présenter les comptes de la croissance économique sous la forme d'un tableau très simple, dont voici par exemple celui qui a trait à la croissance française de moyenne de 73 à 92, d'après l'économiste Madison. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit que le taux de croissance moyen a été de 2,3% par an sur cette période, que 1,6% de ces 2,3% s'explique par l'augmentation des quantités de facteurs de production. D'ailleurs, l'essentiel, c'est le capital, car en 1972, le nombre d'heures de travail effectuées en France était inférieur. Le nombre d'heures totales, pas simplement l'horaire de travail, le nombre d'heures totales effectuées était inférieur à son niveau de 73, et c'est essentiellement le capital productif qui a permis la progression de la croissance. Mais vous voyez que la productivité, c'est un terme important, de l'ordre de 1% par an. Il y a beaucoup de discussions sur la façon de mesurer ces termes, mais le débat principal, l'essentiel, porte sur le terme de productivité, c'est-à-dire ce que la nature, en quelque sorte, nous donne en résultat de production, en plus de l'effort de travail et de capital qu'on a fait. Est-ce que cette productivité est le reflet simplement des techniques du moment, donc une sorte de donnée extérieure à l'économie? Elle est due aux ingénieurs, elle n'est pas due à la manière dont on met en cause, en branle l'économie. Si tel était le cas, les pays devraient tous, grâce au transfert de technologie, converger vers la même croissance? Ou bien la productivité globale est-elle en partie le résultat de la croissance, par exemple par le fait que plus de croissance autorise plus de recherche scientifique, plus de formation professionnelle, plus de formation initiale, et ceci à son tour permettant une croissance plus forte? Si c'est ça le deuxième schéma, alors il y a peut-être possibilité de divergence entre les nations, parce qu'une nation qui a un taux de croissance plus forte peut investir plus en formation, en recherche, et donc générer encore de la croissance plus forte à l'avenir, donc il y a possibilité de divergence. La question n'est pas tranchée entre les économistes, mais je dois dire qu'après avoir penché plutôt dans le sens de la convergence, le balancier va plutôt aujourd'hui dans le sens au moins du risque de divergence, sinon de certitude de divergence. Il faut aussi reconnaître que l'origine exacte des gains de productivité reste aujourd'hui mal expliqué. Pourquoi assiste-t-on de temps en temps à des changements de tendance? On l'a vu tout à l'heure. Quel est le rôle exact des hommes? Quel est le rôle de la technique? Quel est le rôle des institutions? En se fondant sur ce type d'analyse replacée dans le contexte historique, l'économiste Madison, que j'ai cité tout à l'heure, a distingué au XXe siècle quatre grandes phases de développement. Une phase qui a pris fin avec la Première Guerre mondiale, qui est une période paisible et prospère, selon ses propres termes. C'est une phase de développement des communications avec la mise en place des chemins de fer. C'est une période de flux migratoire intense de l'Europe vers les États-Unis et vers les colonies, bien sûr, mais aussi, on le sait moins, de la Chine et de l'Inde vers beaucoup de pays du Pacifique et de l'océan Indien. C'est une époque de change fixe, la monnaie unique et l'or. C'est une époque de stabilité des institutions, d'investissements internationaux très élevés, d'échanges mondiaux qui se développent et finalement de croissance économique qui se renforce. Un chiffre ou deux, le rythme de la croissance mondiale par habitant est de l'ordre de 1,3% par an selon les estimations de Madison. Et pourtant, et c'est ça le point que je voulais mentionner, les gains de productivité globale des facteurs, le facteur clé que j'évoquais tout à l'heure, est encore modeste. 0,3% par an aux États-Unis, moins 0,3% par an au Japon. La croissance résulte à l'époque d'une extension des facteurs de production, mais il n'y a pas véritablement de gain de productivité dans l'économie. Deuxième période, 1913-1950. Le climat change complètement. C'est une période sombre, c'est une période perturbée, c'est une période conflictuelle. Deux guerres mondiales, une révolution communiste, une dépression majeure dans les pays industrialisés au cours des années 30, l'abandon de l'étalon or qui entraîne des guerres monétaires, des dévaluations compétitives, la montée des protectionnismes, le commerce mondial se recroqueville, la croissance économique est médiocre. Mais, deuxième point à mentionner, l'emploi et le capital augmentent finalement moins vite encore que la croissance, parce que dans cette période, le progrès technique s'accélère. Et contrairement à la première période, la productivité est à cette époque forte. Donc croissance modeste, productivité assez forte, les moyens de production se recroquevillent, c'est la montée du chômage et de la crise des années 30. Troisième période, qui va de 1950 à 1973, là c'est l'âge d'or de la croissance, tout particulièrement dans les pays développés. Un nouvel ordre mondial est trouvé, de nouvelles institutions internationales sont mises en place, l'investissement est élevé, le progrès technique s'accélère, notamment dans le pays qui mène le bal, c'est-à-dire les États-Unis. Les pays européens suivent le mouvement, même l'Asie. Les échanges internationaux se redéveloppent à nouveau. Les exportations mondiales augmentent de 7% par an, ce qui ne s'était jamais vu antérieurement. Et la croissance du PIB mondial par habitant atteint près de 3% l'an. C'est donc trois fois plus que dans la période antérieure. Et là, c'est à la fois l'extension des facteurs de production, on crée beaucoup d'emplois, mais aussi des gains de productivité élevés, la technologie se développe. Dernière phase, elle va de 1973 aux années 90, c'est à nouveau une phase perturbée et de croissance plus modeste. Elle commence par des chocs pétroliers, une désorganisation du système des paiements internationaux, le flottement généralisé des monnaies. Elle se traduit par des crises financières dans l'Amérique latine, dans différentes zones. La croissance mondiale par habitant revient à 1,2% par an, c'est-à-dire moitié moins, même sensiblement moitié moins que pendant l'âge d'or, et à peu près la croissance du PIB par habitant de la période 1870-1913. Voilà les 20 années que nous venons de terminer. Les économistes se sont longuement interrogés sur les raisons de ce ralentissement. Première explication possible, la fin du rattrapage d'après-guerre. L'âge d'or, c'était une période de rattrapage, de croissance très rapide, et puis quand on est revenu à la tendance longue, celle qu'on connaissait en fait depuis 1870, ben on a retrouvé la tendance antérieure. Si c'est la bonne explication, alors il ne faut pas attendre de nouvelles économies, nous sommes sur la bonne tendance, c'est-à-dire celle des années 73 à 90. Deuxième explication possible, c'est un dysfonctionnement majeur pendant cette période, reflété en particulier par la forte vague d'inflation au cours des années 85. C'est la seule grande vague d'inflation au cours du XXe siècle, mis à part les deux crises inflationnistes d'après-guerre. Il y a eu bien sûr de l'inflation galopante après la guerre de 14, après la guerre de 40, mais dans toutes les autres années, la seule période inflationniste a été 70-85, disons. Et au début des années 80, le maître mot de la politique économique partout, c'est la lutte contre l'inflation. Je vais juste vous projeter, ce sera le dernier, un très court témoignage audiovisuel de cette politique de lutte contre l'inflation. Je rappelle qu'à l'époque, la France n'était pas seule à lutter contre l'inflation, mais la France avait eu une idée que les autres n'avaient pas eue, c'était de faire de la publicité contre l'inflation à la télévision, et voici ce que ça a donné en 1983.
Toutes les grandes nations sont engagées dans la lutte contre l'inflation. La France aussi. Avec 5% en 1984, notre économie est plus forte, plus compétitive. Inflation 84, avec 5%, on est dans la course.
Pour l'anecdote, j'étais à l'époque au ministère des Finances et j'ai donc commandité auprès de Jacques Delors ce film, mais je l'avais perdu. Je n'avais plus de traces et c'est cette année seulement que mes élèves ont retrouvé une copie de cette publicité. Merci parce qu'ils sont dans la salle, ça vous a permis de retrouver pour certains d'entre vous des images télévisuelles de 1983. Et ça a réussi. L'inflation qui était à 16% au début des années 80 est tombée effectivement en 84-85 à 3%. Un peu aidée, il faut le dire, par le fait que la Banque de France avait monté ses taux d'intérêt à 16% et que le gouvernement avait à l'époque bloqué les prix et les salaires. Les enjeux du débat sur les causes du ralentissement après 1973 sont très importants, parce que s'il s'agit d'un retour à la tendance normale, alors il ne faut pas espérer un retour à un nouvel âge d'or. Si en revanche, nous sommes à la fin de périodes de perturbation, alors nous pouvons avoir beaucoup d'espoir. Or précisément, Madison, que j'évoquais tout à l'heure, a arrêté ses travaux à la fin des années 80, au moment même où la lutte contre l'inflation venait d'être gagnée. Nous sortons d'une longue période de perturbations inflationnistes dans les pays développés, et si le régime d'inflation a changé, alors pourquoi le régime de croissance ne changerait-il pas aussi? C'est l'hypothèse de la nouvelle économie, dont je vais maintenant parler en me tournant vers l'avenir. L'idée que nous changeons d'économie trouve largement son origine dans la performance remarquable des États-Unis au cours des dernières années. Depuis 1991, les États-Unis connaissent la plus longue période de croissance ininterrompue de leur histoire économique. Un long cycle qui s'accélère, une productivité du travail qui s'accélère, une vague d'investissement d'une ampleur exceptionnelle et qui se renforce à un moment où elle devrait au contraire se retourner dans la théorie normale des cycles. Tout cela accrédite donc l'hypothèse d'une nouvelle croissance possible. Nous passerions en somme d'une société industrielle et fractionnée à une société informationnelle et mondialisée. Et dans une économie beaucoup plus immatérielle, où il y a moins de machines et plus de logiciels, disons, les contraintes physiques qui engendraient les cycles et limitaient la croissance longue dans le passé joueraient moins, ouvrant donc la voie à une ère nouvelle d'expansion forte et durable. À l'appui de cette thèse, par exemple, un économiste comme Lister Turow, qui est professeur au MIT à Boston, Cambridge, fait valoir dans son tout dernier ouvrage, qui vient à peine d'être traduit en français, que contrairement à la tradition passée, ce qu'on avait toujours observé dans le passé, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui est Bill Gates, et qui est toujours Bill Gates malgré les avatars de Microsoft, ne possède rien de matériel, ni territoire, ni or, ni pétrole, ni usine, ni armée. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous dit-il, il ne possède que son savoir. Il y a donc bien un changement qui s'opère. Ce changement, nous le voyons, nous l'avons vu tous les jours dans la période récente par un certain nombre de choses qui, il faut le reconnaître, ont surpris beaucoup d'économistes. Ce sont les frénésies de création d'entreprises, les méga-fusions intervenues par-delà les frontières, l'envolée de certains cours de bourse, quelquefois aussi leur rechute de certains cours de bourse. Et la question est la suivante, est-ce que ces observations résultent-elles de mécanismes vraiment nouveaux ou bien peut-on les expliquer par les raisonnements économiques habituels? Si c'est nouveau, on ne sait pas. Si c'est explicable, les économistes penchent plutôt pour la deuxième réponse, à condition toutefois de bien prendre en compte le caractère particulier et spécifique de la partie de l'économie qui est en plein développement, c'est-à-dire l'économie de la communication. Et en particulier, de prendre en compte la formidable accélération du progrès technique dans ce secteur, accélération que l'on résume souvent par la loi de Moore. J'en dis un mot pour ceux qui ne la connaissent pas. En 1965, Gordon Moore, qui était l'un des fondateurs d'Intel, je dis au passage qu'Intel est désormais depuis peu la première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. Moore avait constaté à l'époque qu'une puce, microprocesseur, en remplaçait une autre à peu près tous les 18 mois, et que chaque nouvelle puce électronique était à peu près deux fois plus puissante que la précédente. Donc c'est la loi du doublement tous les 18 mois, on peut dire que l'on appelle du doublement de la productivité de la puce, en somme, que l'on appelle la loi de Moore. Cela veut dire, pour que les choses soient concrétisées dans l'esprit de chacun, qu'un processeur qui, en 1970, contenait 2000 transistors interconnectés, c'était à peu près un microprocesseur de l'époque, quand on fait la multiplication, 2 multiplié par 2 multiplié par 2 un certain nombre de fois, en contient maintenant 10 millions. Vous voyez le rythme du progrès technique. C'est une véritable explosion des capacités et on s'attend aujourd'hui, les spécialistes s'attendent à ce que ça dure encore une dizaine d'années. Alors, quelles sont les surprises de cette nouvelle économie? Je ne les évoquerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, je veux en évoquer une ou deux simplement. Première surprise de la nouvelle économie, je dirais, ça a été cet extrême foisonnement d'une offre de services Internet gratuit. On a vu apparaître ce qu'on n'avait jamais vu dans l'économie jusque-là, des gens qui dépensaient de l'argent, parce qu'il faut les faire, les services Internet, et qui les offraient gratuitement. Et ceci à une vitesse phénoménale, puisqu'il y a maintenant plusieurs millions de sites Internet. Et ça, c'est totalement contraire à toutes les lois de l'économie. En réalité, cette surprise n'en est plus une si l'on observe que la production d'un service d'information, ce qu'est une base de données Internet, implique un coût fixe d'investissement élevé pour la fabriquer, mais un coût marginal presque nul. C'est-à-dire que le branchement d'un internaute supplémentaire ne coûte rien au producteur du service. Or, la théorie économique la plus ancienne et la plus traditionnelle enseigne depuis toujours que le prix d'un bien doit être égal à son coût marginal. Si le coût marginal est nul, on comprend avec les lois traditionnelles que le prix ne peut que tendre vers zéro et doit être nul. Et ceci peut expliquer l'étrange explosion de produits gratuits sur Internet. Autre surprise, les méga-fusions. Autre surprise avant les méga-fusions, mais enfin c'est un peu la même idée, le développement foudroyant de certaines entreprises. Entreprises comme Vodafone, qui n'existait pas il y a quelques années, on peut dire, aujourd'hui a des capitalisations boursières absolument faramineuses et rachète Mannesmann, qui était une des plus anciennes entreprises allemandes, industrielles allemandes, donc très puissantes, Microsoft, etc. Ces croissances exceptionnelles peuvent en fait s'expliquer par les effets d'échelle. Les effets de réseau, c'est le fait que l'utilité d'un bien pour un consommateur dépend du nombre des consommateurs qui consomment ce bien. Si j'achète une bouteille de bière, ça m'est complètement égal que d'autres achètent de la bouteille de bière. Si en revanche, j'achète un fax et que je suis tout seul à avoir le fax, ça n'a aucun intérêt. Si on est deux, c'est déjà mieux, Mais enfin, à deux, on ne va pas passer notre temps à se faxer des papiers. Mais si on est plusieurs millions, alors le fax devient un produit extrêmement intéressant. Donc il faut jouer l'effet de réseau et on peut se développer à des vitesses phénoménales, surtout dans Internet, puisque l'effet de réseau joue là à l'échelle mondiale. Je passe sur d'autres caractéristiques de la nouvelle économie, les économies d'échelle et la rencontre entre les médias et l'Internet, qui fait que, trouvant des tuyaux nouveaux, les médias, les contenus, ont tout d'un coup augmenté de valeur, parce que la valeur de l'information, c'est son usage. Si l'on suit ces raisonnements, en définitive, il n'y aurait pas vraiment de mécanisme économique nouveau. C'est d'ailleurs l'opinion de certains économistes, comme Shapiro et Varian, qui ont écrit les premiers sur le sujet Internet. Et ils nous disent en particulier, l'environnement frénétique dans lequel nous vivons peut être compris à l'aide de principes immuables, la technologie change, les lois restent. Si vous cherchez à comprendre quelles sont les implications d'Internet pour vous et votre entreprise, commencez donc par étudier comment le téléphone a transformé les relations économiques il y a tout juste 100 ans. L'observation est vraie, mais elle ne l'est que partiellement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en comparant précisément la vague actuelle de développement des technologies de l'information et les grandes vagues antérieures, celles des chemins de fer, de l'électricité et du téléphone, ce qui sera mon dernier point. Pour apprécier les enjeux économiques du développement des nouvelles technologies, on va donc rapprocher ce que l'on peut observer aujourd'hui avec ce que l'on avait observé lors des grandes vagues d'innovation générique des deux derniers siècles, puisque le chemin de fer, c'est le 19e siècle. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord des similitudes et on constate aussi des différences. Similitudes d'abord. Les historiens des techniques font, par exemple, souvent observer qu'une période de croissance finit toujours par buter sur des obstacles qu'elle a elle-même créés et accumulés sur sa route. Et alors, une vague d'innovation, c'est le moyen de contourner ces obstacles pour repartir dans la croissance. Les chemins de fer, par exemple, ont permis de prolonger la première révolution industrielle qui avait besoin de transporter de plus en plus de choses, des minerais, des charbons, etc., mais qui n'y arrivait évidemment pas facilement par diligence. Il fallait un moyen de communication pour transporter des choses lourdes. Les chemins de fer ont permis cela. La première ligne de chemin de fer est en effet une ligne qui transportait du charbon des mines de Forez vers le Rhône. Même idée pour l'électricité, ce sera une façon de sortir de l'impasse des transports urbains par omnibus et impérial à la fin du siècle dernier, car l'entretien des chevaux coûtait cher et la vapeur, on aurait pu faire des tramways à vapeur, mais c'était trop polluant. Il fallait donc résoudre le problème du transport dans les grandes villes et on a créé le métro, le tramway. Dans la période actuelle, les télécommunications et Internet constitueraient en somme une réponse au développement des échanges commerciaux et des transactions financières qui ont besoin aujourd'hui d'une transmission quasi instantanée. Mais l'explication ne suffit pas tout de même. Cette explication par le besoin ne suffit pas. Car les innovations techniques créent aussi de nouveaux besoins et de nouveaux services. Et elles répondent à des aspirations plus ou moins clairement exprimées à un moment donné et tendues vers l'avenir. Et nous disent Caron et Gardeau, deux auteurs qui ont écrit sur l'histoire de l'électricité, elles sont en même temps créatrices de nouvelles pratiques culturelles. Juste un exemple pour vous illustrer ce point. Je rappellerai, par exemple, l'enthousiasme des socialistes saint-simoniens au milieu du 19e siècle, même la première partie, pour les chemins de fer. Enthousiasme résumé, par exemple, dans cette citation de Chevalier, qui était le directeur du journal Le Globe à l'époque, en 1832, où il écrivait « Les chemins de fer, le long desquels les hommes et les produits peuvent se mouvoir avec une vitesse qu'il y a 20 ans, l'on aurait jugée fabuleuse, à l'époque, il faisait du 30 à 40 km à l'heure, multiplieront singulièrement les rapports des peuples et des cités dans l'ordre matériel. Le chemin de fer est le symbole parfait de l'association universelle. » Un peu grandiose. Je me demande ce qu'aurait écrit Chevalier s'il avait connu Internet, l'email, les sites communautaires, et les messages d'amour du genre « I love you » que l'on reçoit aujourd'hui des antipodes du monde. L'électricité apportera aussi un peu plus tard sa contribution à l'association universelle, notamment par le télégraphe électrique, qui est la première possibilité pour communiquer vite et à distance, qui permet par exemple, entre autres, la fixation d'une heure universelle pour l'ensemble du monde. On peut aussi rapprocher au nombre des similitudes les grandes effervescences financières auxquelles donnent lieu les débuts des phases de grande innovation. À titre d'exemple, à nouveau, les souscriptions ouvertes à l'époque des premières lignes de chemin de fer ressemblent étrangement aux introductions en bourse actuelles. L'issue normale de la compétition était, pour les ingénieurs soumissionnaires, nous dit Georges Ribel, qui a écrit « La révolution ferroviaire », de se trouver associé à la société définitivement constituée qui allait prendre le relais, à la fois gratifié d'actions de fondateur et d'une fonction naturelle de directeur des travaux. Vous avez reconnu évidemment les stock options qui existaient déjà au XIXe siècle. On peut encore citer bien d'autres choses sur l'électromania des années 20, etc. Le fait par exemple que de 1920 à 1929, les cours des valeurs d'électricité sont multipliés par 7 en bourse. C'est exactement le coefficient multiplicateur de celui des sociétés de télécommunications dans la période récente. Mais les analogies ne doivent pas masquer qu'il y a aussi des différences. D'abord, une différence importante tient au contexte institutionnel. La plupart des grandes innovations antérieures se sont constituées dans un contexte plutôt de monopolisation des marchés. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire du téléphone en particulier, mais le téléphone, c'est ça, apparu en 1876, ce n'est pas une invention nouvelle aux États-Unis. De 1876 à 1930, ça a été pratiquement une monopolisation du marché avec la Bell Téléphone. Ailleurs, c'était des monopoles publics. Et puis, c'est resté comme ça 50 ans. Différence avec la situation actuelle, aujourd'hui, la nouvelle vague d'innovation apparaît dans un contexte de concurrence et non pas de concentration des marchés. C'est tout à fait l'inverse et ça, c'est une différence tout à fait essentielle. Sans entrer dans le détail technique, la concurrence qui apparaît aujourd'hui, notamment dans le domaine du téléphone, c'est là que c'est évidemment le plus spectaculaire, tient fondamentalement à des raisons techniques. Très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que dans les années, on était sur un régime depuis une cinquantaine d'années, et dans les années 70 à peu près, on a commencé à brancher sur les réseaux téléphoniques toutes sortes de choses. Auparavant, on allait acheter son combiné téléphonique, j'allais pas dire à France Télécom, à la direction des télécommunications, et c'était le seul qu'on avait le droit de mettre au bout du téléphone. Puis progressivement, on a mis des ordinateurs. On a mis des ordinateurs et ça a changé beaucoup de choses, parce que les conséquences qui en ont résulté sont les suivantes. D'abord, les capacités de transmission augmentent massivement, parce qu'il est beaucoup plus facile de transmettre des messages numériques, des 0 et des 1, par les fils téléphoniques, que de transmettre de la voix. Deuxièmement, ce qui circule dans les réseaux de télécommunications est identique à ce qui est traité dans les ordinateurs. Donc il y a intégration totale de l'information numérique, non seulement dans les ordinateurs, mais aussi dans les télécommunications. Enfin, comme on peut numériser non seulement la voix, mais aussi des textes, des sons et des images, les combinés téléphoniques, les décodeurs de télévision, les ordinateurs et maintenant les téléphones portables deviennent tous des cousins germains, c'est-à-dire tous des terminaux multimédia. Dernier point, non négligeable pour nous, les Américains ont gagné la bataille de l'informatique. Et en gagnant la bataille de l'informatique, ils ont pris une avance considérable sur l'ensemble des nouvelles technologies, sur l'ensemble du reste du monde. Un dernier aspect présenté comme une différence, et j'en terminerai par cela, entre les vagues d'innovation précédente et la vague actuelle, est la question des délais de diffusion. L'idée souvent émise, mais dont nous allons voir qu'elle est discutable, est qu'il y aurait une sorte d'accélération de l'histoire. Regardons les choses de plus près, c'est-à-dire à partir non pas d'idées, mais de statistiques recueillis dans tous les annuaires statistiques depuis le début du siècle. Commençons par une vision longue sur presque 2 siècles et ceci va apparaître sur un transparent, quatre grandes vagues concernent l'ensemble de la période. Le chemin de fer, 1800, l'électricité, téléphone et radio. Voici le rythme de diffusion, pardon, je saute un graphique que je n'ai pas présenté parce que faute de temps. Voilà. Pénétration des grandes innovations depuis 1830. Les chemins de fer, l'électricité, la téléphonie. Qu'est-ce qu'on observe ici ? Ben, on observe que dans l'ensemble, la diffusion des produits nouveaux est longue. Même la diffusion du téléphone, qui est considérée aujourd'hui comme au centre des nouvelles technologies, commence il y a un siècle. Et elle mettra plusieurs décennies avant de décoller vraiment, surtout en France où on avait pris un retard tout à fait significatif. Disons que pour ces grandes innovations, pour passer d'un taux de diffusion de 10%, décollage, à un taux de 90%, ce qui est pratiquement la saturation, il faut de 40 à 50 ans. Seule la radio va plus vite. Et on comprend assez bien pourquoi, il n'y a pas beaucoup de besoin d'infrastructures, et puis c'est beaucoup moins cher d'acheter des radios, ça s'est développé beaucoup plus rapidement. Tournons-nous maintenant vers le dernier demi-siècle, pour lequel on dispose de plus de données. Voici le taux de pénétration des produits, disons, depuis 1950, avec la télévision, couleur, noir et blanc, le téléphone, la fin du téléphone, enfin la fin. Remarquez qu'en 1965, on était encore à 10% de taux de diffusion du téléphone, c'est effarant. C'est en quelques années que le téléphone, et d'ailleurs pour des raisons qu'on connaît volontairement, a commencé à rattraper. Machine à laver qui se développe, mais sur 20 ans à peu près. Il faut 20 ans, 20-25 ans aujourd'hui pour que les nouveaux produits se développent. Alors reste ce qui est en bas à droite, c'est-à-dire les nouveaux produits de la nouvelle vague des technologies et de l'information qui sont tout à fait à leur début. Ordinateur, mobile, Internet, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle vague ? Eh bien, on peut dire qu'effectivement, le téléphone mobile, lui, prend une pente extraordinairement rapide. Là, il y a véritablement quelque chose qui est nouveau par rapport au rythme ancien, enfin encore que ce n'est pas fondamentalement différent de la télévision couleur, mais enfin ça a l'air un peu plus rapide. On observe deuxièmement, pour l'Internet c'est très difficile de dire parce que c'est le tout début, et puis que la France a beaucoup de retard. Pour l'ordinateur personnel, qui à mon sens d'ailleurs commandera l'Internet, il se développe plutôt moins vite que la télévision, plutôt moins vite, il se développe un peu plus vite que le lave-vaisselle, et un peu moins vite que la machine à laver. Donc, y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau dans tout ça ? Ou bien, nous sommes-nous tout simplement dans une histoire du siècle qui est une succession de vagues d'apparitions de nouveaux produits et de services ? Le lien, à vrai dire, n'apparaît pas clairement. Je devrais terminer en vous évoquant, revenant un peu à ma question initiale, c'est-à-dire est-ce que tout cela maintenant va changer le rythme de croissance macroéconomique ? Et je crois que j'en ai le temps, il n'y a plus qu'une ou deux minutes. La clé est à nouveau, je reviens sur le point essentiel, la clé c'est la productivité globale des facteurs. Est-ce que ce qui est en train de se passer va à nouveau faire remonter pour les années à venir ? La productivité globale des facteurs. La croissance des nouveaux secteurs s'ajoute-t-elle à celle des anciens ou bien s'opère-t-elle au moins par substitution de nouveaux services à d'autres plus anciens, auquel cas la croissance globale resterait la même ? La question est assez ouverte aujourd'hui. Si l'on se réfère à l'économie américaine, qui est la plus avancée, l'accélération de la productivité du travail aujourd'hui existe, elle est réelle, mais elle est surtout concentrée dans un secteur. Elle n'est pas absolument générale dans l'ensemble de l'économie, elle est concentrée dans le secteur producteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'informatique, les télécommunications, le logiciel. Dans les autres secteurs, pour l'instant, l'amélioration est plus modeste. Et évidemment, dans le secteur technologique, la conséquence, la traduction la plus spectaculaire et la plus visible de cette productivité très fortement croissante, c'est l'extraordinaire baisse du prix des matériels technologiques et même d'ailleurs des logiciels. C'est moins vrai pour les logiciels. Deuxième observation sur l'économie américaine, comment réagissent les autres secteurs, les utilisateurs de nouvelles technologies, à cette chute considérable de prix des matériels d'ordinateurs et aussi de transmission, des réseaux de transmission de données dont la productivité augmente actuellement encore plus vite que dans les ordinateurs. Selon un économiste, Kevin Stiro, qui a travaillé sur ces sujets, l'idée qu'il évoque, c'est que les secteurs utilisateurs des nouvelles technologies réagissent parfaitement rationnellement aux baisses de prix, tout simplement en substituant du capital informatique dont le prix baisse énormément aux autres facteurs de production, le travail et le capital traditionnel. Pour illustrer ce propos, les banques achètent beaucoup d'ordinateurs et de réseaux de communication, par exemple pour pour être en relation avec leurs distributeurs de billets, mais n'embauchent pas et ne construisent plus d'agences. C'est la substitution du facteur informatique aux autres facteurs de production. Mais au total, et c'est ça l'observation importante, cette substitution n'a pas d'effet sur la productivité globale des facteurs dans l'ensemble des secteurs utilisateurs, ou en tout cas peu d'effet, et en effet, on constate pas beaucoup d'augmentation de la productivité globale des facteurs aux États-Unis. Au total, pour l'ensemble de l'économie, comme les nouvelles technologies ne représentent que quelques pourcents de l'économie nationale, il y a un petit effet sur la productivité globale parce qu'elle augmente dans le facteur producteur, mais comme il ne fait que 5% à 8% de l'économie, au total, elle augmente peu. Donc, il n'est pas évident que ce mouvement entraîne une augmentation de la croissance potentielle future. Et je termine par une dernière observation en forme de question. Cette révolution des technologies de la communication, à qui va-t-elle bénéficier ? Va-t-elle bénéficier à tout le monde ou à quelques-uns seulement ? Bien sûr, tout le monde, je n'en doute pas, utilisera l'informatique, les nouveaux téléphones, l'Internet. Ils se développeront partout. Mais est-ce que cela suffira à assurer une forte croissance durable à toutes les régions du monde ? Si par exemple, pour illustrer mon propos et volontairement caricaturant un peu la chose, les Européens se mettaient tous à l'Internet pour acheter sur Amazon.com à partir d'ordinateurs équipés de microprocesseurs Intel, la croissance, la nouvelle croissance bénéficierait surtout à l'Ouest américain et à la Californie, ou précisément d'ailleurs, de nombreux jeunes informaticiens européens et asiatiques sont attirés actuellement. Pour bénéficier complètement de la nouvelle économie, il faut donc non seulement, je pense, diffuser largement l'usage des nouvelles technologies, ce que l'on fait, mais aussi disposer d'une capacité d'offre de biens et de services fondée sur les nouvelles technologies. Il faut une offre qui soit forte, qui soit dynamique, qui soit compétitive. Et compte tenu de l'avance prise par les États-Unis dans ce domaine, il y a un vrai défi à relever pour l'Europe. Merci.
Professeur, merci. Maintenant, nous allons passer aux questions.
Bonjour. Est-ce que cette nouvelle économie induirait une nouvelle politique économique ? Excusez-moi, je suis là.
La question, c'est au fond, est-ce qu'on peut accélérer le passage à la nouvelle économie, c'est-à-dire bénéficier plus vite, plus largement, ou faire en sorte qu'on en bénéficie tout court. Le point final de mon exposé, qui était en lui-même en forme de question, mais enfin, j'avais un peu donné la réponse, c'est effectivement qu'il y a des choses à faire, sans qu'on sache si d'ailleurs ça réussira complètement, à moitié, ou encore moins. Où sont les axes ? Je dirais qu'il y a deux axes. Le premier, je l'ai évoqué, c'est de renforcer, au fond, d'essayer de se repositionner mieux dans une technologie qui est la technologie de l'informatique et de la télécommunication, où nous avons quelques atouts, hein, où l'Europe a des atouts, mais où elle a été assez largement distancée par les États-Unis.
Alors ça, c'est pas facile parce qu'on sait d'expérience que c'est pas en mettant de l'argent public qu'on y arrive. C'est probablement plus en amont, c'est probablement dans la recherche, c'est probablement dans l'université, c'est dans la formation et peut-être aussi dans l'aide de quelques programmes. Mais il y a un deuxième aspect. Celui-là, je n'ai pas pu l'évoquer dans mon exposé du tout. Mais un économiste important, mais que je n'ai pas cité, qui s'appelle Simon Kuznets, disait « La croissance, c'est d'abord et avant tout de bonnes institutions. » Et vous avez observé dans mes quatre époques du XXe siècle que quand ça va bien, ben, c'est que les institutions vont bien. Il y a de bonnes institutions internationales, il y a de bons échanges extérieurs, il y a un bon système de change monétaire, il n'y a pas de dévaluation compétitive permanente, il y a des échanges mondiaux faciles, etc. Et puis que quand ça va mal, ben c'est parce qu'on est en conflit, c'est parce qu'il y a un recroquevillement des échanges extérieurs, c'est par exemple qu'on a trop peur de la mondialisation, alors on se replie sur soi-même, etc. Bon. Donc c'est les institutions. L'aspect institutionnel est évidemment essentiel, mais il passe par de très nombreux éléments, dont la flexibilité. Nous sommes dans une économie aujourd'hui qui nécessite de la réactivité, qui nécessite que les gens s'adaptent. Et peut-être précisément aussi, ajoutons un dernier point, c'est que la nouvelle économie, je l'ai dit, peut être génératrice de divergences entre pays, mais à l'intérieur des pays. D'ailleurs, je crois que c'est assez visible qu'un certain nombre d'inégalités apparaissent avec ces fortunes qui se font si rapidement aujourd'hui. Un peu trop, me semble-t-il, pour que ça dure. Mais il faut aussi veiller à ce que, précisément, la nouvelle économie ne devienne pas un facteur de décohésion sociale, en somme, qui provoquerait des réactions du type de celles qu'on a connues quelquefois dans le passé, c'est-à-dire des réactions de repliement sur soi-même, à l'intérieur des pays ou entre les pays. Le débat sur la mondialisation n'est pas étranger à cette affaire. Nous en avons vu deux images tout au début. Nous avons vu que l'histoire économique, c'est ça va bien quand les gens échangent bien, ça va moins bien quand ils se replient sur eux-mêmes. Je pense que l'un des aspects de la politique économique que vous évoquez, mais je pourrais en citer mille autres, est un élément d'accompagnement du passage à la nouvelle économie. Vous voyez que les choses sont assez nuancées. La réponse n'est pas véritablement dans la nouvelle économie. Elle est dans l'aménagement des structures et des institutions qui permettent aux initiatives de la nouvelle économie de se développer sans devenir destructrices d'un certain ordre social.
Oui, monsieur en haut à droite.
Monsieur le professeur et cher ami, une question. Vous avez dit que les Américains ont gagné la guerre de l'informatique. Alors j'aurais voulu quelques précisions. Premièrement, pourquoi vous avez employé le mot « guerre » ? Parce qu'à première vue, l'économie, les échanges, c'est exactement le contraire de la guerre. Deuxièmement, il y a quand même un précédent troublant. Vous vous rappelez peut-être que dans les années 60, il y avait un grand thème très à la mode, c'était le gap technologique entre, soi-disant, les États-Unis et le reste du monde, en particulier l'Europe. Et on a écrit des ouvrages célèbres et inconsistants sur ce thème. Nous étions incapables de rattraper ad vitam aeternam le retard en question. Alors, est-ce qu'il y a une analogie ou bien est-ce que l'avance américaine, cette fois-ci, a des caractères tels qu'on peut penser qu'effectivement, il y a un véritable gap ?
Merci, Paul Fabra, de poser cette question, elle est très importante. Oui, peut-être que l'expression « gagner la guerre de l'informatique » est un peu synthétique. Mais quand vous regardez ce que sont les grandes entreprises informatiques dans le monde aujourd'hui, d'ailleurs aussi bien en matériel qu'en logiciel, Intel, premières entreprises du monde, Intel, Cisco, Lucent Technologies, cherchons les entreprises européennes équivalentes. Elles n'existent pas ou elles sont très petites par rapport à ce que représente la capacité d'offre. C'est vrai dans le matériel, c'est vrai dans le logiciel. Alors dans le logiciel, c'est un peu plus complexe parce que nous avons de bonnes entreprises de services de logiciels. Mais nous n'avons jamais très bien su en Europe, sauf quelques exceptions, comme une entreprise comme SAP par exemple, Business Object, mais enfin ce sont des petites entreprises par rapport aux grandes entreprises mondiales. Nous n'avons jamais su bien passer
du logiciel dit spécifique, c'est-à-dire celui qu'on fait pour un client qu'on va installer en service logiciel, au progiciel, c'est-à-dire celui qu'on diffuse comme Microsoft à des dizaines de millions d'exemplaires sur la planète entière. C'est ça que les Américains ont gagné. Alors il y a peut-être de la technique, mais il y a aussi peut-être tout simplement du marketing, du savoir-faire. Et puis il y a aussi le fait que leur marché représente pratiquement la moitié du marché mondial, à lui tout seul. Et donc que quand on a chez soi un marché qui représente la moitié du marché mondial, ben, après on s'étend sur les autres, mais quand on représente 5, 4% du marché mondial, c'est beaucoup plus difficile d'aller conquérir le reste du monde. Or nous sommes dans une économie de réseau, y compris pour le logiciel. Ce que j'ai observé tout à l'heure sur l'économie de réseau, ça ne joue pas uniquement parce qu'il y a des fils. Si Microsoft est de loin et de très loin le premier vendeur de logiciels pour gérer ses micro-ordinateurs, c'est parce qu'il a créé un réseau. Et c'est parce qu'il a en gros éliminé les concurrents. Maintenant, on ne peut avoir que des Windows, sinon on est tout seul à parler avec soi-même. Si j'étais venu ici ce soir avec un micro-ordinateur qui avait d'autres logiciels, je n'aurais même pas pu vous projeter l'écran. Donc je suis obligé d'acheter Windows. Il y a un effet de réseau qui se produit à l'échelle mondiale. Cet effet de réseau, il a été, je crois, largement gagné. Alors, quand je parlais de guerre, j'aurais dû dire ils ont gagné la bataille, en nous laissant l'espoir qu'on peut gagner la bataille suivante, bien entendu. Hein. Gagner une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Bon. Et je crois qu'en effet, nous avons des atouts. Nous avons des atouts dans le domaine du matériel de télécommunication. Nous sommes plutôt assez bons. Nous avons des atouts en Europe dans certaines niches en matière de logiciels, mais le chemin à parcourir est absolument important. Alors, y a-t-il un gap définitif? Peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a une différence très importante qui s'est instaurée en matière de recherche, par exemple. Et il y a un point qui, personnellement, me préoccupe, c'est que les États-Unis, c'est la moitié du marché mondial et c'est surtout un marché unique. L'Europe, dans ce domaine, n'est pas faite. Prenons l'exemple des télécommunications, tout simplement. Nous avons bien dit qu'en 1993, on faisait un marché unique des biens et des services. Mais en réalité, non. Dans le domaine des télécommunications, qui est un des cœurs des véhicules de la nouvelle technologie, nous avons toujours 15 autorités de régulation des télécoms, et les unes vendent aux enchères publiques. Les voisins considèrent que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Le troisième a une autre idée. Les réglementations sont différentes, etc. Je crois que la taille d'un marché dans une économie où les effets de réseau jouent beaucoup est un élément essentiel. Et sur ce plan, l'Europe, je crois, ne va pas assez vite. Elle devrait avancer plus vite pour pouvoir peut-être espérer gagner la bataille suivante. Je mentionne au passage que nous sommes un peu dans la même situation en matière de biotechnologie, où nous sommes encore compétitifs, mais les Américains, ça se développe plus vite aujourd'hui. Voilà un peu le sentiment que j'ai, mais enfin, bon, on peut avoir des analyses différentes sur la situation. C'est en gros ce qui est consensuel aujourd'hui sur l'avance énorme prise en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication par les États-Unis.
Oui, monsieur, vous avez un micro.
Oui, pour prolonger ce que vous venez de dire, monsieur, et la question de monsieur Paul Fabra, je voudrais tout de même vous poser la question à propos de l'hégémonie des États-Unis, de la question du déficit commercial qui oblige aujourd'hui les États-Unis à augmenter leur taux d'intérêt. On dit pour éviter l'inflation, en fait, il n'y a pas d'inflation, c'est simplement pour permettre de maintenir le courant faramineux de capitaux qui permet de financer ce déficit qui était de plus de 270 milliards l'année dernière et qui s'accroît de mois en mois toujours. Donc il y a tout de même un problème. Ça veut dire quoi, ce déficit commercial? Cela veut dire qu'à chaque fois que IBM vend un produit, il y a 80% ou 70%, je ne connais pas le terme exact, qui vient en particulier du Japon, qui eux ont la connaissance et le know-how qui permet de fabriquer un certain nombre de sous-ensembles. Donc ils ont la maîtrise probablement des services, ils ont mis en place un certain nombre de réseaux, mais ils n'ont probablement pas du tout la maîtrise de l'ensemble, et il y a là un problème sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis.
D'accord.
Et source de déséquilibre pour l'avenir.
Oui, je ne voudrais pas qu'on conclue du fait que les Américains ont pris une forte avance sur les technologies de l'information et de la communication, qu'il n'y a plus rien à faire, hein, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je viens à votre question précise parce que les entreprises se développeront partout et qu'on va aussi créer, je pense, des entreprises informatiques, je l'espère en tout cas en France, peut-être d'une génération suivante, pas la première. pas l'actuel. On n'est pas mauvais en composants, électronique. Bon, il y a des domaines où on est bon, et puis nous ne sommes pas non plus à la taille des États-Unis, mais l'Europe l'est. Hein. Il y a plus d'habitants en Europe qu'aux États-Unis. Alors je réponds maintenant à votre question, qui est un peu plus une question, j'allais dire, conjoncturelle et de cycle économique. Vous me dites que les Américains, effectivement, ont un très fort déficit extérieur, 400 milliards de dollars, ce qui est considérable, c'est même un record absolu, c'est même plus qu'au milieu des années 80, qui était déjà un premier record. Donc ça ne va pas pouvoir durer. Et il va falloir que ce déficit se réduise, parce que sur la longue période, un pays ne peut être qu'équilibré. Il faut que, en déficit, des moments des excédents. Oui, c'est vrai, il y aura certainement, et c'est peut-être une manière de répondre à la question sur les cycles, il y aura à nouveau des cycles américains. Il y aura un ralentissement américain un jour ou l'autre. Je ne crois pas que les États-Unis se soient installés définitivement dans une croissance à 4% longue. Mais quelle est la tendance longue derrière ce mouvement de cycle? Deuxième élément, il n'est pas dit, parce que ce ralentissement américain, tous les économistes l'attendent depuis maintenant 4-5 ans, 4 ans à peu près, et ils se fichent dedans régulièrement, tous les 3 mois, puisqu'on réactualise les prévisions tous les 3 mois, et chaque fois on met un ralentissement américain, et puis après 3 mois on redresse les prévisions américaines, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fond, ce déficit ne les gêne pas. Il ne les gêne pas. Pourquoi? Il ne les gêne pas parce que, précisément, le reste du monde ne demande qu'une chose, y compris les Européens, les Asiatiques, les Japonais, ne demandent qu'une chose, c'est d'aller investir leur argent aux États-Unis. Donc il y a un déficit qui fait sortir des dollars, mais ces dollars reviennent sous forme de placement en investissement aux États-Unis. Ça alimente la croissance américaine, puisque l'investissement, c'est de la croissance, et il en revient même plus qu'il n'en part par le déficit, puisque le dollar monte. Et depuis le temps qu'on attend la baisse du dollar, le dollar monte. La croissance américaine continue et le dollar monte. Donc vous voyez que ce fait d'une certaine avance quand même, une économie qui fonctionne bien aujourd'hui, attire les capitaux et au fond le déficit n'est pas un problème. Alors je pense que ça le sera à force de s'accumuler parce que le déficit c'est de la dette, mais pour l'instant personne ne peut dire ni quand ni comment ça s'arrêtera. Quand c'est le moment? Comment ça veut dire? Est-ce que ça sera un ralentissement, une récession ou un énorme krach boursier? Ça, aujourd'hui, personne ne peut le dire de manière certaine. C'est un problème, mais c'est un problème qu'on peut pousser assez longtemps devant soi.
Oui, monsieur, pour une dernière question.
Oui, bonjour d'abord, monsieur. Allô, ici. Oui, quand j'étais en licence, en 1936, mon professeur a... Poitiers utilisait une image qui m'a toujours marqué pour indiquer comment le progrès arrivait dans une société. Il expliquait qu'il fallait, à l'origine des temps, il a fallu que pour qu'on invente la roue de brouette, il a fallu que quelqu'un se prive ou que la communauté entière mange moins de façon à libérer le travail de celui qui allait au champ afin qu'il invente quelque chose. Et j'ai l'impression que c'était assez vrai et que parfois on pense trop à la monnaie, par exemple à la création de monnaie pour financer quelque chose, alors qu'il faut surtout des gens disponibles pour pouvoir réaliser des inventions. Et donc, je me demande si... une des déficiences de l'Europe, ce n'est pas qu'elle consacre suffisamment de temps et donc d'argent à financer des investissements et que notre retard par rapport... Ce qui est d'ailleurs nouveau d'avoir des excédents de balance des paiements et que notre retard vis-à-vis des États-Unis se justifie de la sorte. Alors je me demande si en Europe on fait toujours tout pour que d'abord les gens soient préparés à entrer dans de nouvelles situations, à faire de la recherche, et qu'on continue à les nourrir grâce à l'épargne que font les autres en ne consommant pas trop. Merci.
Vous avez dit « je me demande », donc c'est à vous que vous vous posez la question. J'imagine que vous la posiez aussi à moi-même. Il y a en effet un point que vous avez raison de souligner, qui était donc vrai en 1936, mais qui le reste aujourd'hui, c'est qu'il y a une relation claire entre l'investissement et la croissance longue. Et comme pour investir, il faut épargner, entre l'épargne et la croissance longue. On peut même d'ailleurs observer que si on regarde tous les pays du monde, les pays qui épargnent et qui investissent beaucoup par rapport à leur production intérieure brute, c'est en gros l'Asie d'ailleurs, ont des taux de croissance à 5-6% l'an. L'Europe, qui épargne entre 15 et 17% de son produit intérieur brut, a des taux de croissance de 2,5. Les États-Unis, qui investissent beaucoup et épargnent peu, c'est l'exception, si je puis dire, mais financent leur investissement par l'épargne des autres. Mais ça, c'est la question d'avant. Je ne reviens pas sur la question précédente. Donc, il y a en principe, dans une économie fermée en tout cas, voire du problème extérieur, une relation entre ces deux choses. L'Europe épargne correctement et elle investit moins qu'elle n'épargne. Et le reste, c'est précisément ce qui va alimenter l'investissement américain qui n'est pas financé par l'épargne. Donc il y a actuellement un déséquilibre mondial de l'épargne et de l'investissement, au sens qu'il y a certaines zones où il y a plus d'investissement que d'épargne et d'autres zones où il y a plus d'épargne que d'investissement. Et ceci rejoint le dernier propos que c'était dans une question ou dans le dernier propos que j'évoquais. L'un des défis de l'Europe, c'est précisément d'investir plus, d'investir dans le matériel, mais aussi maintenant de plus en plus dans l'immatériel. Et dans l'immatériel, il y a la recherche, il y a le logiciel, il y a le savoir. Il y a la créativité. Je crois que si nous avons, et ce sera le mot de la fin, si nous arrivons à combiner correctement de bonnes ambitions d'investissement et de bonnes institutions d'accompagnement, alors nous serons, nous aussi, dans la nouvelle économie. Eh bien voilà, c'est l'espoir que je forme pour nous, pour vous et pour moi.